Chapitre 6. Même si elle ne pouvait ni bouger ni parler, Nietzsche entendait tout ce qui se disait dans la salle. Cependant, les voix lui semblaient venir de très loin, comme si le réseau de lignes vertes qui l'emprisonnait l'avait transféré dans un autre monde. « Écoutez, Richard !» aurait-elle voulu crier. Pétrifiée dans sa prison immatérielle, elle en était incapable. Pourtant, elle aurait donné 10 ans de sa vie pour échapper aux mâchoires du piège mortel qui s'était refermé sur elle. Jusque-là, Nietzsche n'avait jamais vraiment saisi le sens des mots « vérification intérieure ». Anna, Z et Nathan non plus, d'ailleurs. Nul ne pouvait imaginer une telle chose. Une fois le processus enclenché, l'ancienne maîtresse de la mort avait découvert qu'adopter cette perspective ne revenait pas simplement à appréhender une toile de vérification en détail et d'un point de vue intérieur. C'était ce qu'elle avait toujours cru, et ses 3 collègues plus âgés partageaient cette vision des choses. En réalité, il s'agissait, pour la personne qui servait de cobaye, d'intérioriser le sortilège et de le vivre comme une partie d'elle-même. Quand on s'en apercevait, il était trop tard pour faire marche arrière. Le sort activé agissait à l'intérieur de l'individu. Le construct qui l'entourait était en quelque sorte l'aura du pouvoir dont Nietzsche était investi. Au début, l'expérience avait confiné au mystique, une révélation au sens premier du terme. Puis, quelque chose avait mal tourné, très vite pour être honnête. Une vision quasi religieuse d'une fantastique beauté s'était alors transformée en un atroce calvaire. Chaque ligne qui déchirait l'air avait à l'intérieur de Nietzsche une sorte de jumelle qui lui lacérait l'âme. Au début, Nietzsche s'était vite avisé que le plaisir était un des vecteurs lui permettant de percevoir le déroulement du sortilège. Élément central lorsqu'il s'agissait pour un être d'adhérer profondément à la splendeur du monde et de sentir sa perfection, l'extase dévoilait dans toute sa gloire l'incroyable complexité de la toile magique. C'était un peu comme admirer un somptueux coucher de soleil, savourer une délicieuse préparation ou regarder dans les yeux un être aimé qui vous enveloppait d'amour. Sur ce dernier point, l'ancienne maîtresse de la mort extrapolait car elle n'avait jamais eu la chance d'être aimée. Comme dans la vie, avait-elle très vite découvert, la douleur était le symptôme de dramatiques dysfonctionnements. Si elle n'avait pas vécu l'expérience, Nietzsche n'aurait jamais supposé que cette méthode était jadis communément appliquée pour étudier le fonctionnement interne d'un sortilège. Dans le même ordre d'idées, elle n'aurait jamais soupçonné l'étendue et la profondeur de ce qu'un tel protocole pouvait révéler. Enfin, elle n'aurait pas postulé que la plus infime panne ou erreur était une telle source de souffrance. En possession de toutes ces données, aurait-elle insisté pour tenter l'aventure? L'enjeu étant Dédé Richard, il y avait des chances que oui. Mais pour l'heure, plus rien ne comptait à ses yeux que la souffrance. De sa vie, elle n'avait jamais rien enduré de semblable, et pourtant Jagang ne l'avait pas ménagée à l'époque où elle combattait à ses côtés. Aujourd'hui, une seule pensée occupait son esprit : cesser de souffrir. Et pour cela, elle devait échapper au construct. Car le mal qui le contaminait finirait par la tuer, elle en était certaine. Richard avait repéré l'endroit où tout avait commencé à se déliter. Ayant mis le doigt sur le défaut originel, il avait compris et clamé haut et fort que le sortilège rongeait Nietzsche de l'intérieur. Elle sentait sa vie couler comme du sang, traverser le voile et se perdre dans l'immensité du cercle extérieur. La grâce dessinée avec son fluide vital était devenue la forme emblématique de sa vie et de sa mort. Pour l'instant, Nietzsche était coincé entre 2 mondes qui lui semblaient aussi irréels l'un que l'autre. Encore physiquement présente dans l'univers des vivants, elle glissait lentement mais inexorablement dans le royaume des morts. À chaque seconde, l'univers où vivaient Richard et les autres perdait un peu plus de sa substance. Fatigué de lutter, Nietzsche était prêt à se laisser sombrer dans la douce éternité du néant, N'importe quoi, à condition que son calvaire cesse. Bien qu'elle eût aucun moyen de se manifester, elle voyait tout ce qui se passait dans la salle, pas avec ses yeux, mais avec son don. Malgré la douleur, elle s'émerveillait de cette formidable expérience. Cette façon de voir confinait à l'omniscience, car elle n'était plus limitée par de banales contingences physiques. Ses globes oculaires, si perfectionnés fussent-ils, ne lui auraient jamais permis de voir en même temps devant elle, derrière et sur les côtés. Mortelle ou non, cette expérience était extraordinaire. Derrière le réseau de lignes vertes, en un sens les barreaux de la prison de Nietzsche, Richard dévisageait les trois vieillards, l'air de plus en plus mécontent.
« Qu'est-ce qui vous arrive, bon sang? Il faut la sortir de là, je n'ai pas été assez clair ?»
Avant qu'Anna ait pu se lancer dans un sermon, Zed lui fit signe de bien vouloir se taire. Une fois sûr qu'elle ne desserrerait pas les lèvres, le vieux sorcier se tourna vers son petit-fils. Ensemble, ils étudièrent le construct. Une nouvelle ligne s'était détachée d'une intersection et dessinait un motif inédit dans l'espace. Du point de vue de Nietzsche, cette ligne était une aiguille à tricoter qui se frayait un chemin dans son corps et dans son âme, la poussant encore un peu plus vers le néant du royaume des morts. La douleur n'avait qu'un aspect positif. Elle tenait éveillée sa victime, l'empêchant d'opter pour une bienheureuse inconscience, synonyme de capitulation sans condition.
« Richard, dit Zed, c'est impossible. Le construct doit se développer. La toile de vérification génère un nombre inconnu de connexions qui révèle peu à peu une multitude d'informations sur le sortilège cible. Une fois lancé, le protocole de vérification ne peut pas être interrompu. Et quand il est achevé, il se volatilise de son propre chef. »
Le sorcier ne se trompait pas. Nietzsche en aurait attesté si elle l'avait pu.
« Combien de temps ?»
demanda Richard. Il prit le vieil homme par le bras et le secoua comme un prunier.
« Combien dure le processus ?»
Zed ouvrit les doigts de Richard et dégagea son bras.
« Nous n'avons jamais eu un sort de ce genre, fiston. Si je devais risquer une estimation, je miserais sur un minimum de 3 ou 4 heures. Le sort a commencé il y a environ 1 heure et son développement semble plutôt lent. »
Sur ce point, le sorcier se trompait, mais là encore, Nietzsche ne pouvait rien lui dire. Il ne lui restait plus 3 ou 4 heures. Dans quelques minutes, le sortilège dévoyé lui aurait fait traverser le voile et elle serait déjà en train d'errer dans le royaume des morts. Une étrange façon de mourir pour une femme comme elle. Si inattendue, à la fois paisible et inutile. Tant qu'à faire, elle aurait aimé périr en servant Richard. Au moins, elle aurait rendu le dernier soupir avec une certaine fierté. Tirer sa révérence après avoir accompli quelque chose d'utile devait être un peu moins amer.
« Nietzsche ne résistera pas si longtemps, »
dit Richard.
« Nous devons la libérer sur le champ. »
Malgré la douleur, Nietzsche eut un sourire intérieur. Quand il s'agissait de combattre la mort, Richard ne baissait jamais les bras.
« Mon garçon, » dit Zed. « Je ne vois pas comment tu peux savoir ça, mais je ne te contredirai pas. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas interrompre un sort de vérification. »«
Pourquoi donc ?»«
Tu veux toute la vérité. Je ne sais pas si c'est possible en réalité, mais nous n'avons aucune idée de la méthode à employer. Le protocole de vérification, même extérieur, se dote de protections afin de ne pas être interrompu. Des gardes magiques, si tu préfères. Celles de ce construct sont 100 fois plus complexes que les défenses classiques.
Autant vouloir sauter d'un cheval qui galope en haut d'une crête entre 2 précipices. »
dit Nathan.
« Si on n'attend pas que la bête s'immobilise, c'est la mort assurée. »
Richard recommença à étudier le construct. Nietzsche se demanda s'il avait conscience de voir une simple projection de la tempête de pouvoir qui faisait rage en elle. Alors qu'une autre ligne se détachait d'une intersection pour suivre un itinéraire tragiquement erroné, l'ancienne maîtresse de la mort sentit que sa fin ne tarderait plus. Un organe vital se déchirait de l'intérieur dans sa poitrine et la douleur lui vrillait jusqu'à la moelle des os. La pénombre envahissait peu à peu la bibliothèque. En réalité, c'était une obscurité venue d'un autre monde, celui où le chagrin et la douleur n'auraient plus de prise sur Nietzsche. Elle devait se laisser dériver vers ce havre de paix. Soudain, elle vit quelque chose dans les ombres de cet autre univers. Une image qui la fit reculer d'instinct, le havre de paix, prenant tout à coup des allures de séjour infernal. Tapis dans les ombres, une créature aux yeux rouges brillants, comme des boulets de charbons ardents, regardait fixement Richard. Nietzsche voulut crier un avertissement à son ami. En être incapable lui serra le cœur. « Regardez, » dit Richard en la désignant. « Une larme coule sur sa joue. »«
Probablement parce qu'elle ne peut pas battre des paupières, »
dit Anna, toujours prompte à doucher les envolées lyriques d'autrui. Les poings serrés de rage, Richard recommença à faire le tour de la table. Il devait comprendre le sens caché du construct.
« Il faut trouver un moyen de neutraliser le sortilège. C'est certainement possible. »
« Mon garçon, » dit Zed en tapotant l'épaule de son petit-fils, « si c'était possible, j'accéderais à ton désir, mais je ne sais pas comment interrompre un sort de vérification. Cela posé, pourquoi est-ce si urgent? Qu'est-ce qui t'inquiète, sourcier? As-tu idée de ce qui, selon toi, contamine le construct ?»
Nietzsche se concentrait à présent sur la créature embusquée dans les ombres du royaume des morts. Dès que des éclairs illuminaient la salle, elle ne voyait plus les yeux de ce mystérieux ennemi. Seule la pénombre révélait sa présence. Richard avait cessé de s'intéresser au construct pour observer attentivement sa prisonnière.
Nietzsche aurait donné n'importe quoi pour le voir approcher d'un pas décidé et la libérer du piège qui la tuait de plus en plus vite. Hélas, cet exploit n'était pas à la portée du sorcier, et elle le savait.
Dans cette situation désespérée, Nietzsche aurait volontiers renoncé à sa vie en échange de quelques minutes dans les bras de Richard.
« Les carillons !»
souffla soudain le sourcier.
Anna écarquilla les yeux.
Nathan, au contraire, soupira de soulagement, comme s'il était sûr désormais que son lointain descendant était victime de son imagination débordante.
« Les carillons ?»
répéta Zed.
« Richard !» « J'ai peur que tu sois dans l'erreur cette fois. Les carillons appartiennent au royaume des morts. Ils paieraient sans doute cher pour pénétrer dans le monde des vivants, mais ça leur est impossible. Ils sont piégés jusqu'à la fin des temps dans le domaine du gardien. »
« Zed, inutile de me faire un dessin. Je sais tout des carillons.
Pour me sauver la vie, Callan a dû les libérer. »«
Elle ne pouvait pas savoir comment faire, fiston. »
« Tu te trompes parce que Nathan le lui a dit. Il lui a également révélé leur nom.
En règle générale, il faut éviter de les prononcer, mais nous n'en sommes hélas plus là.
Richani, Centrosi et Vassi. Les invoquer était le seul recours de Callan si elle ne voulait pas me perdre. C'était un acte désespéré. »
Nathan en resta bouche bée. Mais il ne contredit pas Richard puisqu'il s'agissait d'un épisode de sa vie lié à Callan et donc effacé de sa mémoire. Anna jeta un regard soupçonneux au prophète. Décidément, dès qu'il s'agissait de semer la pagaille, il était imbattable.
« Richard, » dit Zed, « Callan a peut-être cru qu'elle invoquait les carillons, mais je t'assure que ça ne pouvait pas être dans ses moyens magiques. De toute façon, si les carillons arpentaient le monde, nous le saurions, tu peux me croire. » « Rassure-toi au moins sur un point. Les carillons sont toujours piégés dans le royaume des morts. Pas toujours, mais de nouveau, parce que je les ai renvoyés chez le gardien. »
Mais Callan a toujours soutenu qu'elle était responsable des graves dysfonctionnements de la magie dans notre monde. La réaction en chaîne, ainsi que tu l'as toi-même qualifiée lors d'une conversation que tu as oubliée, est en cours et elle s'en prend à toutes les formes de magie.
« La réaction en chaîne? Pour jongler avec des concepts pareils, tu as sûrement dû en parler avec moi. »
Richard avait parfaitement raison. Le vieux sorcier ne se souvenait plus de rien.
Callan affirmait que le séjour des carillons dans notre monde avait contaminé la magie. Elle disait aussi que les avoir envoyés chez eux n'arrêterait pas l'épidémie. Je me suis toujours demandé si elle avait raison.
Aujourd'hui, j'ai ma réponse. Le sourcier désigna la prison scintillante dans laquelle Nietzsche agonisait.
Voici la preuve de ce que j'avance. Je ne te montre pas les carillons, mais les désastres qu'ils ont provoqués. Le monde entier est infecté, Zed. Le sort d'oubli est défectueux lui aussi, et il tuera Nietzsche si nous n'intervenons pas très vite.
Il faisait de plus en plus sombre hors du construct, et la douleur brouillait la vision de l'ancienne maîtresse de la mort. Hélas, elle distinguait toujours les yeux rouges rivés sur Richard dans la nappe d'obscurité surnaturelle qui envahissait la salle. Le monstre attendait son heure, bien à l'abri dans une cachette imprenable, nichée quelque part entre les deux mondes. Le sourcier ne saurait jamais ce qu'il avait frappé. Et Nietzsche n'avait aucun moyen de le prévenir. Elle sentit une nouvelle larme rouler sur sa joue. Richard ne passa pas à côté de ce qu'il prit pour un autre appel au secours. Entêté comme à son habitude, il suivit du bout d'un index la trajectoire des lignes principales, des voies secondaires et des diverses impasses du construct.
« Ce devrait être faisable !» insista-t-il.
Visiblement furieuse, Anna parvenait à ne pas exploser. Nathan, lui, assistait à la scène avec l'impassibilité d'un gisant. Zed tira nerveusement sur les plis de sa tunique.
« Fichtre et foutre ! Richard, comment suis-je censé m'y prendre ? Le sort a généré ses propres défenses. N'oublie pas que ce construct est alimenté par les deux variantes de la magie. Du coup, le pouvoir soustractif est naturellement intégré à son système de sécurité. »
Richard dévisagea un moment son grand-père, qui était rouge comme une pivoine, puis il reprit son analyse du construct. Avec moult précautions, il passa une main entre deux lignes afin de toucher la robe noire de Nietzsche. « Je ne t'abandonnerai pas, » souffla-t-il à son ami. Aucune parole n'avait jamais résonné si tendrement aux oreilles de l'ancienne maîtresse de la mort. Et tant pis si Richard mentait sans le savoir. Lorsque les doigts du sourcier touchèrent sa robe, Nietzsche eut l'impression que le construct venait de se doter d'épines dirigées vers l'intérieur. Si Richard l'avait poignardé au cœur, l'effet n'aurait pas été plus dévastateur. Luttant pour ne pas perdre connaissance, la magicienne se concentra sur les deux yeux incandescents dans les ombres. Elle devait trouver un moyen de prévenir Richard. Le sourcier retira sa main en prenant garde à ne pas toucher les lignes. Aussitôt, le construct redevint « normal », si ce concept avait un sens en ce domaine. Dans son état normal, Nietzsche aurait soupiré de soulagement.
« Zed, tu as vu la réaction du construct ? Les lignes qui s'orientaient vers l'intérieur, agressives comme des lames de couteau. »«
J'ai vu, oui, ça me coupe le souffle. »«
Ce n'est pas un phénomène normal. » »«
Non, mon garçon. » »«
C'est bien ce que je pensais. » »« Le construct devrait être inerte, mais la variable biologique qui le contamine l'a modifié dans ses structures mêmes. » »«
Quoi qu'il se passe... »
fit Zed, soudain pensif.
Il paraît évident que ça affecte le fonctionnement du sortilège.
Il y a encore plus grave, ajouta Richard. La contamination consécutive au séjour des carillons dans notre monde est biologique, donc elle s'adapte en permanence à son environnement. C'est pour ça que toutes les formes de magie sont menacées à présent. Le sort d'oubli va continuer à muter. Nous ne pouvons pas prédire son évolution, mais il paraît probable qu'il deviendra de plus en plus actif. Comme si la chaîne de flammes n'était déjà pas assez dangereuse comme ça. J'ai peur que toutes les victimes du sortilège souffrent bientôt de troubles de mémoire qui ne concerneront plus seulement Callan.
« Qu'est-ce qui te fait croire ça ?» demanda Zed.
« Songez au nombre de souvenirs collatéraux qui se sont effacés de votre mémoire à tous les trois. Il s'agit à la base d'une réaction en chaîne, et la contamination décuple ses effets déjà dévastateurs. » En d'autres termes, une catastrophe se préparait et elle dépasserait tout ce que Zed et ses deux collègues avaient imaginé.
« Richard, » demanda Anna entre ses dents, « où es-tu allé pêcher des âneries pareilles ?»«
Silence, femme !»
s'écria Zed.
« Je comprends les formes emblématiques, » répondit quand même Richard, « et celle-ci est totalement en désordre. »
Nathan tourna la tête vers une fenêtre brièvement illuminée par deux ou trois éclairs.
Quand leur lumière se fut dissipée, Nietzsche vit de nouveau les yeux rouges du monstre.
« Mon garçon, tu crois dur comme fer que quelque chose menace la vie de Nietzsche ?»
demanda Z.
« J'en suis certain.
Regarde cette divergence, juste devant nous. Un tel défaut serait mortel, même sans le vide anormal qu'il y a juste à côté. Crois-moi, j'en sais sacrément long sur les représentations à forte morbidité connotée. »
Z foudroya son petit-fils du regard.
« Je dois comprendre de quoi tu parles, mon garçon. Que veut dire ton charabia sur les représentations à forte morbidité connotée ?»«
Je t'expliquerai plus tard. D'abord, il faut libérer Nietzsche. »
« Richard, j'aimerais connaître un moyen, mais ce n'est pas le cas, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Si nous essayons d'extraire Nietzsche du construct avant l'extinction du sort de vérification, ça suffira à la tuer. C'est hélas une des rares certitudes qui nous restent. »
« Pourquoi cette issue mortelle ?»«
Parce que la vie de Nietzsche est en quelque sorte suspendue. N'as-tu pas remarqué qu'elle ne respire pas ?» Pendant que le sortilège poursuit son enquête, le construct se charge de maintenir en vie le corps de ton ami. En un sens, elle est devenue l'enfant du sortilège. Arrache-la à sa prison et tu la priveras de tout ce qui la garde en vie.
Nietzsche eut le sentiment que son cœur explosait. Contre toute logique, elle avait failli croire Richard, qui ne se décourageait jamais face à l'adversité. Mais là, il allait connaître la première défaite de sa carrière de grand sorcier. La créature guettait toujours sa proie. Nietzsche distinguait maintenant sa silhouette dans l'îlot d'ombre qui s'était formé près de grands rayonnages. On eût dit un homme transformé en un monstre aux muscles noueux et saillants. Quant à ses yeux, c'étaient ceux de la mort en personne. C'était la bête qui traquait Richard pour le compte de l'empereur Jagang.
Nietzsche aurait fait n'importe quoi pour protéger son ami, mais elle ne parvenait même pas à bouger un cil. Chaque nouvelle ligne du construct l'enchaînait un peu plus à son destin, une plongée irréversible dans le puits de ténèbres du néant.
« Même s'il mute, » dit Richard, réfléchissant tout haut, « ce sortilège a encore besoin de nutriments pour soutenir sa croissance. »« Richard ?» répondit Zed. Un sort de vérification s'auto-génère. Même s'il mute comme tu le prétends, il n'y a aucun moyen de lui couper les vivres.
Si nous pouvions le neutraliser, murmura Richard, il relâcherait Nietzsche, et tant que sa vie dépendrait du sortilège, nous la garderions dans le construct tout bêtement.
Accablé, Z secoua la tête, se désolant que son petit-fils n'ait pas compris un mot de ce qu'il venait de lui dire.
Richard étudia une ultime fois le construct, puis il leva une main et pinça entre le pouce et l'index une ligne qui jaillissait d'une intersection créée avant la zone de contamination. La ligne cessa de briller.
« Par les esprits du bien !»
s'exclama Nathan, soufflé. Sous le regard magique de Nietzsche, le monstre fit un grand pas en avant. La ligne qui s'était éteinte semblait avoir emporté avec elle un peu des forces vitales de Nietzsche. En même temps, si Richard ne se trompait pas, elle serait bientôt libre et aurait le temps de l'avertir du danger. L'ancienne maîtresse de la mort se jura de tout faire pour s'accrocher à la vie. Richard écarta les doigts et la ligne se ralluma.
Nietzsche eut l'impression qu'on lui déchirait les entrailles avec une lame chauffée au rouge.
« Tu vois, Zed ?»
lança le sorcier. Le vieil homme tendit une main pour imiter l'exploit de Richard. Poussant un petit cri, il fut contraint de la retirer et la secoua frénétiquement comme s'il s'était brûlé.
« Les défenses contiennent de la magie soustractive, »
rappela doctement Anna. Le premier sorcier la foudroya du regard.
« Vous vous souvenez des champs de force au palais des prophètes ?»
demanda Richard. « Je les traversais sans difficulté à l'époque. »«
Ne m'en parle pas. » soupira Anna. « J'en ai encore des cauchemars. »
Richard tendit de nouveau la main visant la même ligne qui s'éteignit de nouveau. Le sorcier s'intéressa à une autre intersection située avant la ligne devenue noire. Aussitôt, plusieurs rayons lumineux se ternirent. S'attaquant à une autre intersection, Richard continua sa minutieuse procédure de désactivation. Les lignes éteintes tournaient autour de la prisonnière.
créant de nouveaux croisements et une multitude de trajectoires trop complexes pour être retracées. La ligne neutralisée avait en quelque sorte cessé d'exister et sa disparition provoquait une rupture dissonante dans la rythmique intérieure du construct. Nietzsche s'émerveilla du processus qu'elle sentait engagé au plus profond de son être. La toile se démantelait, perdant sa logique et sa cohérence. Sous le regard magique de Nietzsche, la salle sembla de nouveau très vivement éclairée. Mais ce n'était pas l'effet des éclairs cette fois, la magicienne le savait. Les yeux rouges brillaient d'avidité à croire qu'ils avaient capté la fluctuation dans le flot éternel et immanent de pouvoir. Les trois vieillards ne s'apercevaient-ils pas que Richard utilisait son don pour se jouer de tels champs de force? Était-il aveugle, ces idiots? Richard utilisait sa magie, attirant la bête hors du royaume des morts. Dehors, d'authentiques éclairs zébraient le ciel et le tonnerre faisait un vacarme de fin du monde. À cause de l'orage et de la tempête qui se déchaînait maintenant à l'intérieur du construct, la lumière fluctuait sans cesse dans la salle. Sur toute sa longueur, le mur où s'ouvraient les fenêtres passait en un clin d'œil de l'obscurité la plus dense à une luminosité aveuglante. Nietzsche avait l'impression que la foudre, naturelle ou magique, la frappait chaque fois de plein fouet. Comment pouvait-elle être encore en vie? Une seule explication possible. Richard désactivait le sort de vérification sans le détruire. À croire qu'il soufflait méthodiquement les flammes d'une interminable rangée de bougies. De plus en plus vite, son assurance augmentant à chaque instant, le sourcier continuait à dessiner ses curieuses arabesques le long du construct. Docilement, les lignes s'éteignaient puis se rétractaient comme si elles partaient en quête de la source d'où elles avaient jailli. La bête était à demi sortie du royaume des morts. Luttant encore pour s'en extraire totalement, elle pliait et dépliait les bras pour s'accoutumer à son nouvel environnement. Lorsqu'elle ouvrait la gueule, ses énormes crocs brillaient sous la chiche lumière des lampes. Tous les regards étant braqués sur le construct, personne ne s'avisa de l'intrusion. Progressant de plus en plus vite, Richard éteignait maintenant les lignes par blocs de 10 ou 12. Privé de tout ce qui le soutenait et en partie dépouillé de son intégrité même, le construct se dissociait comme s'il allait s'effondrer de l'intérieur à la manière d'une maison rongée par une colonie de termites. Soudain, la toile de vérification se volatilisa comme si un magicien l'avait fait disparaître dans son chapeau. Nietzsche sentit le réseau magique s'arracher littéralement à son corps. Dès que les lignes encore scintillantes touchaient la grâce, elles aussi se désintégraient. En quelques instants, il ne resta plus rien du construct et du sort de vérification intérieure. Enfin libre, Nietzsche tomba brusquement sur la table. Ses jambes n'ayant pas la force de la soutenir, elle s'écroula et bascula de son perchoir. Richard la rattrapa au vol, l'impact d'un tel poids inerte le forçant à poser un genou sur le sol. Serrant Nietzsche dans ses bras, il parvint à recouvrer son équilibre et épargna à son ami un rude contact avec le sol de pierre. Dehors, les éclairs se déchaînaient comme si les cieux pouvaient prendre feu. Créature sans âme conçue pour accomplir une unique mission, l'ennemi mortel de Richard émergea complètement du royaume des morts. Aussitôt, elle se jeta sur la proie qui avait osé lui résister en plusieurs occasions. C'était l'heure de la vengeance, délicieuse s'il en était.